L'Association québécoise des cadres scolaires vous souhaite la bienvenue sur Balada QCS, une série de balados qui aborde des enjeux de gestion au cœur du réseau de l'éducation. Avec le contexte dans lequel les cadres scolaires naviguent actuellement, on pense à la pénurie de personnel, le gel d'embauche, la reddition de comptes qui s'alourdit, les tâches qui augmentent constamment, on comprend que la capacité d'adaptation des gestionnaires du réseau de l'éducation est fortement sollicitée. Tous les jours à part de ça. Mais s'adapter constamment au changement, on peut le dire, ça peut devenir épuisant, surtout si un changement nous est imposé. Aujourd'hui, on tente d'inverser la vapeur. Et si on partageait autrement la responsabilité du changement? Si on cherchait à améliorer la capacité d'adaptation de toute l'équipe? On en parle aujourd'hui avec nos invités pour ce nouvel épisode de Balada QCS.
J'aime dire aux dirigeants puis aux cadres que j'accompagne, il faudrait peut-être qu'ils commencent à être fiers de ce qu'ils ne font pas. Parce que ce que j'observe dans beaucoup d'organisations, c'est qu'on commence beaucoup de changements. Finalement, bien, il y en a certains qu'on ne mène pas à terme parce qu'on n'a pas regardé si on avait la capacité de les mener ou pas. Donc, est-ce qu'on peut en ajouter un en ce moment? Puis si on en ajoute un, est-ce qu'on ne devrait pas en enlever un?
Autour de la table, Catherine-Julie Charrette, conférencière, formatrice, coach, consultante en développement organisationnel. Bonjour Catherine-Julie.
Bonjour.
Steve Sinkey, directeur adjoint du Bureau de la statistique et de l'imputabilité au Centre de services scolaires Marie-Victorin. Bonjour Steve.
Bonjour.
Et à mes côtés, Karine Tremblay, gestionnaire administrative d'établissement en formation professionnelle au Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Bonjour Karine.
Bonjour.
Donc, embarquons dans le vif du sujet avec Catherine Julie. Dans les écrits de gestion, les médias, on utilise souvent le terme agilité. L'agilité, est-ce que c'est synonyme à la capacité de s'adapter? Est-ce qu'on fait référence à la même chose?
Oui, absolument. Il n'y a pas une définition de ce que c'est que l'agilité ou l'agilité organisationnelle, mais ce qui est certain, c'est que dans toutes les définitions que j'ai vues, il y a ce fameux mot l'adaptabilité. C'est évident que dans un monde qui change vite comme celui dans lequel nous vivons et nous travaillons, on a évidemment intérêt à développer notre capacité d'adaptation et donc notre agilité pour vraiment être créatif par rapport à tous ces bouleversements que l'on vit, que ce soit comme citoyen, citoyenne ou comme travailleur ou travailleuse ou comme cadre.
Et là, comment on fait pour mesurer ça?
Bien, on peut faire plein de choses. Déjà, on a commencé il y a quelques années à mesurer le quotient d'adaptabilité. Donc déjà, d'être consciente de notre relation avec les changements, je pense que c'est un bon point de départ individuellement parce que si chaque personne fait cet exercice-là, puis aussi accepte le fait que le monde change très, très vite. En ce moment, on le voit comme citoyen, comme citoyenne, bien évidemment, tous ces changements-là se répercutent dans nos organisations. De comprendre notre relation personnelle avec le changement. Puis aussi, il y a tous ces liens de confiance-là à tisser entre les gens dans les équipes qui vont faire qu'on va avoir envie d'avancer ensemble dans l'ambiguïté, dans l'incertitude, dans la complexité qui teinte grandement nos environnements de travail, nos équipes aussi. On est en train de démontrer, selon Harvard Business Review, le World Economic Forum, que notre capacité d'adaptation qui est liée à plusieurs facteurs est un élément clé de la réussite, en fait. Donc, individuelle et donc collective aussi, parce que tout ça est interdépendant, évidemment. Alors, il y a aussi un énorme travail sur soi à faire. Je le mentionnais tout à l'heure, on a chacune nos relations avec le changement. Il y a des gens qui ont une vie plus routinière, plus stable, plus prévisible. Puis il y en a qui aiment ça, le changement aussi. Il ne faut pas oublier ça. Il y en a qui carburent au changement. Alors, c'est qui ces gens-là? Il faut aussi les repérer dans nos équipes parce qu'ils peuvent être d'excellents ambassadeurs, ambassadrices pour justement soutenir les cadres puis faire que nos équipes avancent mieux dans le changement. Parce qu'on le voit, tu sais, quand les nouveaux téléphones sortent. Là. Il y a des gens qui font la file pour les avoir, là, hein, ces nouveaux téléphones-là. Puis il y en a d'autres qui disent, je vais voir s'ils fonctionnent bien, puis j'en aurai un après. Puis il y en a d'autres qui disent, ben, je vais attendre que mon téléphone ne fonctionne plus. Alors, on a des relations très différentes, chacun et chacune d'entre nous, avec le changement aussi. Puis ça, c'est important de ne pas l'oublier. Parce que c'est vrai que spontanément, pour moi, en tout cas dans mon travail, quand on parle de changement, il y a un mot qui vient tout de suite, c'est résistance au changement. Alors que pour moi, je pense que les gens résistent davantage à l'ambiguïté du changement qu'au changement en tant que tel. Parce qu'on change tout le temps, toute notre vie, on change juste. L'âge est un bon exemple. Le changement est très, très clair pour ceux qui l'initient. Puis souvent, ce à quoi ceux qui initient les changements ne pensent pas, c'est à tout ce temps qu'ils ont eu pour identifier ce serait quoi le changement qui répondrait aux besoins, aux problématiques, aux opportunités qui font qu'on va faire un changement. Ce qui crée un écart important entre finalement ces gens qui initient le changement avec ben, une solution probablement toute bien réfléchie et ceux qui vont devoir appliquer toutes ces bonnes idées-là. Alors, les gens qui sont sur le terrain, cet écart-là, il est souvent pas bien géré. Et en fait, on confond même, je dirais que on gère le changement, le volet humain du changement comme si c'était l'implantation d'un système très souvent, alors que un changement, le volet humain, ben, ça passe énormément par l'apprentissage. Et ça, ben, ce n'est pas quelque chose qu'on organise bien dans les organisations.
Qu'est-ce qui distingue les gestionnaires, les cadres qui ont une capacité à s'adapter qui est plus forte que d'autres? Est-ce qu'il y a des forces, il y a des aptitudes, des qualités en particulier? Est-ce que c'est une compétence essentielle pour être nommé cadre gestionnaire un jour dans notre carrière?
Absolument. Moi, ce que j'aime bien utiliser pour mettre en relief la différence entre ces cadres qui s'adaptent et qui prospèrent dans le changement et les autres, c'est l'approche d'un livre qui s'appelle Mastering Leadership. Et dans ce livre, donc, on compare les leaders réactifs, hein, qui sont issus plutôt d'une philosophie, d'une approche de gestion qui est traditionnel, où est-ce que la planification, le contrôle, l'exécution sont au cœur de leur pratique. C'est vraiment souvent des cadres qui vont avoir une faible tolérance à l'ambiguïté, qui sont à l'opposé des leaders qui sont créatifs. Donc, des leaders qui sont vraiment en train de se demander une question puissante que j'invite tout le monde à se poser, c'est de quoi cette situation a-t-elle besoin? Juste en se posant cette question-là, ça nous amène à prendre un recul, de la hauteur par rapport à la situation, puis c'est là qu'on a des options devant soi, parce qu'on a tous et toutes un pilote automatique, il peut être utile dans certaines situations, mais quand on est dans la complexité, habituellement, notre pilote automatique ne nous sert pas très, très bien. Et quand on est cadre, bien, on engage aussi nos équipes là, dans nos décisions. Donc, c'est assez important donc d'avoir cette capacité-là à prendre la hauteur. Des fois, c'est l'espace d'une respiration. Des fois, c'est l'espace de quelques heures, une journée. Mais aussi, attention, je veux également ajouter l'importance pour les cadres qui s'adaptent. Ce sont une autre caractéristique, c'est que ce sont des gens qui utilisent l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les réponses à tout, tout le temps. C'est utopique aussi, puis c'est une très grande pression que beaucoup de cadres se mettent à se voir comme ceux qui doivent trouver les solutions. Non seulement ça déresponsabilise les gens autour d'eux, mais aussi ça prive l'organisation de toutes sortes de perspectives qui sont vraiment essentielles lorsqu'on fait face à la complexité comme le changement l'engendre. J'aimerais peut-être citer d'ailleurs, parce que je mentionne ce mot-là, complexité, Peter Senge, qui est l'auteur de la cinquième discipline, qui a une phrase extraordinaire pour définir finalement la complexité qu'engendrent les changements. Il dit « couper un éléphant en deux, ça ne fait pas deux petits éléphants, ça fait un gros gâchis ». Alors, quand on fait des changements dans les organisations, on déstabilise l'organisation. Puis le but de la gestion du changement, c'est de retrouver un certain équilibre, en fait. Et ce qui fait qu'on le retrouve, ça passe par prendre soin des humains et des humaines qui sont dans nos organisations, de les soutenir à travers toutes ces préoccupations-là qui sont tout à fait légitimes. C'est tout à fait normal que les gens, lorsqu'on leur annonce un changement, aient des préoccupations. Alors, on doit en prendre soin de ces préoccupations-là.
Mais comment on accompagne nos troupes, nos équipes dans les petits, les grands changements? Si on sent que les gens adhèrent moins, comment on s'y prend?
Mais ça passe beaucoup par l'écoute de ces fameuses préoccupations, justement. Quand on commence à demander aux gens qu'est-ce qui te préoccupe, par exemple, par rapport à ce changement-là comme cadre, déjà, on se donne les clés pour avoir une approche qui est beaucoup plus en adéquation avec les besoins de la personne ou de l'équipe. Parce que la perspective du cadre est totalement différente de celle de ses employés. Puis la perspective aussi, puis la façon de voir le changement des employés dans la même équipe, elle est aussi très souvent différente. Alors, juste par rapport à ce que je disais plus tôt, que certains aiment le changement, certains ont peur du changement. Alors, en posant cette question-là, déjà comme cadre, j'arrive à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ils l'ont compris, qu'est-ce qu'ils anticipent, mes employés, et je suis capable de m'adapter de façon beaucoup plus adéquate à leurs besoins. Donc, je suis en mesure de les soutenir davantage. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Puis, écoutez, ça ne se fait pas rapidement. Puis, le temps manque pour beaucoup, beaucoup de gens dans les organisations. Mais ça demeure pour moi fondamental que de prendre le temps de poser cette question-là aux membres de nos équipes pour pouvoir s'adapter. Puis, ça ne veut pas dire qu'on va régler les problèmes de tout le monde, mais on sait que simplement en ayant écouté nos employés, il y a un travail qui se fait. OK? Déjà, les gens se sentent entendus, reconnus, plus importants. Puis ça, ça contribue à quelque chose de fondamental que j'ai nommé plus tôt, c'est la confiance. Quand on fait confiance à notre leader, à notre cadre, on accepte de ne pas avoir toutes les réponses tout le temps à nos questions. Il y a M. Maletto qui a un outil intéressant en gestion de changement qui s'appelle l'outil « Pas de questions sans réponse », donc PQSR. Alors, évidemment, c'est normal aussi comme cadre, il faut se le rappeler, de ne pas avoir les réponses en tout temps, pas en tout temps, mais plutôt en temps réel aux questions qui nous sont posées. Cependant, ce qu'on peut faire, c'est de les prendre en note puis s'engager à revenir aussi avec des réponses. Puis ça aussi, ça contribue à ce lien de confiance qui va vraiment créer l'ouverture dont on a besoin pour que les gens l'accueillent, ce changement-là.
On parlait de partage de responsabilités. Il y a eu des avantages qui ont été évoqués. Est-ce qu'il y a des risques et est-ce qu'on doit avoir peur d'y faire face? Ou on est déjà favorisé, gagnant, en partageant la responsabilité au sein de l'équipe?
Il n'y a pas de solution sans risque et de solution magique. Je crois qu'il y a plus de risque de ne pas partager la responsabilité que de la partager parce que dans une organisation, on est interdépendant et co-responsable de ce qui se passe. Ces deux mots-là, c'est au cœur de ma pratique. Par exemple, quand on est en réunion, c'est pas la personne qui anime qui est responsable, l'unique responsable de la réunion. On est tous des adultes, donc on est co-responsable du climat, on est co-responsable d'atteindre les objectifs, on est co-responsable quand il y a des comportements qui nuisent au bon déroulement. On est co-responsable de ça. Alors pour moi, c'est essentiel aussi pour les cadres de ramener ces notions-là d'interdépendance et de co-responsabilité pour avoir des relations d'adulte à adulte. Et ça, c'est un autre élément que la gestion traditionnelle fait, c'est que dans les pratiques de gestion traditionnelle, il y a beaucoup de relations parents-enfants. Et ça, bien, souvent, c'est dans l'angle mort des cadres, des gestionnaires, mais ça déresponsabilise les gens. Fait que ça amène beaucoup plus de poids aussi sur les épaules des cadres qui gèrent comme ça, avec de bonnes intentions. On enseigne encore ça dans certaines écoles de commerce, hein? Mais dans un environnement qui change en permanence, ça fait des organisations, on demande trop de choses à trop peu de gens, finalement.
Co-responsabilité. Moi, je veux qu'on aille rejoindre nos invités. Karine, oui. Steve, qu'est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que c'est une façon de fonctionner chez vous au quotidien? Est-ce que ça fait partie de votre réalité? Est-ce que c'est facile, c'est naturel chez vous?
Oui, pour ma part, tout à fait. Là, ça résonne beaucoup, là, tout ce qui est interdépendance, co-responsabilité. Je pense que c'est la clé, comme Catherine Julie le disait, là. Je crois que c'est la clé dans un changement, que ce soit nous qui l'initions ou si ça provient, exemple, de la haute direction. Je pense que de faire valoir le tout à tout le monde, puis de les sonder aussi en lien avec ces changements-là, je pense que c'est important.
Il a beaucoup résonné en moi dans ce qui vient d'être dit. C'est tout ce quand on parle de mesurer le quotient d'adaptabilité, je trouve que c'est un outil qui est vraiment intéressant, puis je suis très curieux. Je veux vraiment... J'aurais pu écouter Marie-Julie, Catherine Julie, excusez, pendant très, très longtemps parce que c'est des outils, là, j'ai essayé d'en prendre en note, mais tout ce qui s'appelle mesurer le quotient d'adaptabilité, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça peut donner ensuite à l'équipe un portrait d'où on part, puis qu'est-ce qu'on peut faire après. Donc, moi, c'est un outil que je retiens. Puis l'autre chose qui me ferait, ben, où je réagis, c'est que les leaders réactifs versus les leaders qu'on pourrait appeler agiles, moi, très personnellement, puis j'aimerais entendre Catherine Julie là-dessus, ça m'a parfois même apporté des conflits qui sont sains quand même, pas des conflits destructifs, mais il y a des gens, puis je veux avouer que je suis un peu comme ça, qu'on est capable de s'adapter très rapidement à des très courts délais, alors que certains aiment voir venir des mois et des mois en avance. Et donc, des fois, c'est comme, ben non, fais-moi confiance parce qu'on va apprendre de la prochaine phase et puis ce qui va arriver après, ben on va être capable de s'adapter. Fait que moi, j'aurais aimé élaborer là-dessus. Je trouve ça vraiment intéressant.
Catherine Julie?
Oui, merci. Je trouve ça très intéressant de vous entendre aussi. Ben, il y a différents facteurs hein, qui font que le rythme n'est pas le même. Bon, il y a notre engouement pour le changement, ça j'en ai parlé, mais il y a aussi des organisations qui n'ont pas la vue d'ensemble du nombre de changements qui ont lieu en même temps. Puis c'est un des effets qui va faire en sorte que on va avoir plus de difficultés à avancer ensemble. Donc, de ne pas avoir la vue d'ensemble, puis de pas... Moi, j'aime dire aux dirigeants puis aux cadres que j'accompagne qu'il faudrait peut-être qu'ils commencent à être fiers de ce qu'ils ne font pas. Parce que ce que j'observe dans beaucoup d'organisations, c'est qu'on commence beaucoup de changements. Finalement, ben, il y en a certains qu'on ne mène pas à terme parce qu'on n'a pas regardé si on avait la capacité de les mener ou pas. Donc, est-ce qu'on peut en ajouter un en ce moment? Puis si on en ajoute un, est-ce qu'on ne devrait pas en enlever un? Donc, ça, c'est vraiment important au point tel qu'il y a des organisations qu'on qualifie, puis là, vous m'excuserez, l'expression est en anglais, mais de « changeaholic ». Donc, une organisation changeaholic, il faudrait peut-être qu'elle se questionne, tu sais, à savoir d'où viennent ces freins-là au changement. Alors, puis il y a, par rapport à ce que Steve nommait, évidemment, les gens qui veulent se sentir en contrôle, ce qui est propre aux experts souvent, hein, qui veulent savoir ce qui s'en vient, puis avoir des plans bien ficelés à l'avance. Évidemment qu'il y a un travail aussi à faire sur soi-même ici parce que ce n'est pas toujours possible et parfois même ce n'est pas souhaitable parce que le temps investi à faire un plan bien ficelé sur plusieurs mois, ben, engendre un niveau de risque important parce que ce qu'on est en train de planifier dans 6 mois, ben, on sait que l'environnement va avoir tellement changé que ça ne tiendra plus la route. Donc, on aurait intérêt à faire de plus courtes itérations lorsqu'on planifie. Puis effectivement, voir ce qu'on vient de faire, ben, où est-ce que ça nous a emmené, puis c'est quoi la prochaine étape compte tenu de l'expérience qu'on a, de ce qu'on a réussi à faire, et de notre monde aussi, c'est quoi leur capacité à aller de l'avant, est-ce que le rythme était bon. Puis c'est ça que font les organisations apprenantes. Elles s'adaptent en permanence, elles tirent des leçons et vraiment, c'est une clé très, très importante, ça, cet apprentissage. Dans les équipes et les organisations.
Je pense que de là, l'importance de rallier les troupes aussi. Donc, je fais du pouce sur ce que Catherine Julie vient de dire. Est-ce qu'on fait trop de changements? Est-ce que le changement est prêt? Ou bien, ce que tu disais en début, là, de gérer l'écart entre ceux qui initient le changement et ceux qui vont le recevoir. Mais je pense que la clé de la réussite, selon moi, elle est là, est d'aller chercher les troupes. Puis, justement, on peut, nous, décider d'apporter des changements, puis on l'a cogité, mais on n'a pas nécessairement pensé à aller voir l'équipe. C'est eux qui sont sur le terrain puis qui sont à même de nous dire si ces changements-là sont plausibles ou non. Donc, je pense qu'on se doit de les écouter, là.
Est-ce que Karine...
De là, la co-responsabilité également.
Est-ce que, Karine, ces gens-là, on peut les qualifier d'alliés?
Tout à fait. Absolument. J'aime dire un peu les ambassadeurs, là, des agents du changement. Il y a toujours quelqu'un dans les équipes qui va être à même de vouloir nous suivre, j'ai envie de dire, ou qui vont embarquer dans le changement. Il y en a tout autant qui vont être réfractaires, mais je pense que c'est bien d'aller chercher ceux qui lèvent le bras bien haut là, quand c'est le temps d'un changement pour s'allier avec eux, pour faire passer la pilule à l'équipe, si on veut dire, là.
Bonjour, ici Jean-François Parent, PDG de l'Association québécoise des cadres scolaires. Avez-vous consulté notre calendrier d'activités de perfectionnement qui se trouve sur notre site Internet au www.aqcs.ca? Chaque saison, nous sélectionnons pour vous des formations qui contribuent au développement de vos compétences à toutes les étapes de votre carrière. Si vous êtes membre AQCS, n'hésitez pas à nous suggérer des thématiques.
Steve, est-ce que vous diriez que les gens qui vous entourent, ce que vous remarquez, peut-être même vous-même, qui sait, on ne se connaît pas beaucoup, sont en quelque sorte des gens qui en ont beaucoup sur les épaules? Des espèces de super-héros là, qui veulent tout faire, qui voudraient tout faire, puis qui voudraient que ça fonctionne de leur façon. Puis le lâcher-prise est peut-être difficile.
Oui, ça, c'est un constat que j'ai fait. Puis que c'est drôle parce que je les qualifie, moi, nos directions d'école de super-héros. Et on est beaucoup, beaucoup entouré dans les centres de services, dans les centres de services administratifs, là, je parle dans les services administratifs, d'anciennes directions qui sont réellement, à mon avis, des super-héros. C'est des gens qui, autant vont faire de l'administratif, vont être bons à gérer des parents, des médias, des policiers, des jeunes qui ont vomi, des... En tout cas, fait effectivement, souvent, je me rends compte qu'ils aiment en prendre très large. Puis des fois, la délégation, elle est plus difficile. J'ai même une collègue que j'adore, mais qu'elle, si par exemple, on se dit, ben peut-être que tel projet pourrait attendre, mais moi, je sais qu'elle va se revirer de bord, puis elle va dire, ah, c'est pas grave, moi, je sais que je suis capable de le faire, puis je vais y aller, puis je vais le réaliser. Puis, fait qu'il y a des gens qui aiment, moi, tu sais, nous, on appelle ça un peu l'agitation, le s'agiter, puis en prendre large. Plutôt que des fois dire, ben on en laisse tomber, mais on y va plus profond dans les changements, puis on y va plus lentement. Et ça a beaucoup résonné chez moi, Catherine, Julie, quand tu parlais de laisser tomber certains projets, tu appelais ça des changements, on peut dire des projets, à un point où j'essaye, moi, à l'interne, de développer un outil qui nous donne une idée de notre capacité à entreprendre des projets et forcément des changements. Pour être capable de se dire, ben ici, on va atteindre un niveau là, rouge, il faut arrêter ici, là, on en a jusqu'à la gorge. Là, je crois beaucoup en l'idée de laisser tomber certaines initiatives, certains projets, dans le but de se donner de l'air pour respirer et puis pour faire les projets de façon peut-être plus complète, plus en profondeur, plutôt que d'en prendre très, très large et d'en faire beaucoup. Donc, chez nous, moi, j'essaye depuis longtemps de développer un outil qui nous permet de mesurer notre capacité à prendre des projets, prendre des nouvelles initiatives pour qu'on puisse justement se trouver le niveau où est-ce qu'on se dit, là, on a jusqu'à la gorge, là, c'est rouge, il faut arrêter d'en prendre. On est mieux d'en laisser tomber ou d'en compléter avant de commencer de nouvelles initiatives. Alors, ça résonne beaucoup, beaucoup chez moi quand Catherine Julie parlait de laisser tomber des fois certaines initiatives.
En fait, si je peux rebondir là-dessus à mon tour, on parle ici, quand je vous écoute, Steve, hein, de passer d'un mode très tactique à un mode stratégique. Puis les leaders qui font ce développement-là, parce qu'on parle ici de se développer pour arriver à avoir une pensée plus stratégique, quand ils ont fait ce travail-là sur eux-mêmes, souvent ils vont dire que quand ils agissaient avec cette posture d'expert très tactique, ils cherchaient à tout faire bien. Et maintenant qu'ils ont atteint ce niveau de leadership plus stratégique, ben en fait, là, ils cherchent à faire les bonnes affaires. Donc, passer d'un mode où je cherche à tout faire bien versus le mode où je cherche à faire les bonnes affaires. Et ça, c'est très important parce qu'on a une capacité limitée, comme vous disiez justement, et on s'épuise à vouloir tout faire. Puis il y a beaucoup de bruit là-dedans, il y a beaucoup d'éléments qui ne génèrent pas de valeur. Donc, plus on développe un mode de pensée complexe, hein, parce que c'est ça, hein, quand on parle de passer d'un style de leadership d'expert à un style de leadership plus stratégique. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est amener même les leaders à devenir des catalyseurs de changement, parce que c'est ça dont on a besoin dans nos organisations. Entre autres, ça fait des gens qui vont beaucoup mieux gérer leurs priorités et qui vont chercher les opportunités plutôt que les problèmes, puisque des problèmes, il y en a tout le temps. Hein? Donc, quand on cherche des problèmes, on en trouve. Quand on cherche des opportunités de s'améliorer, là, on amène plus de capacités, un meilleur climat, on transforme nos organisations, puis c'est de ça qu'on a besoin en ce moment. Et ça, c'est un état d'esprit qui est très, très différent, chercher des problèmes versus chercher des opportunités. Et tout ça, ça prend, évidemment, mais ça demande beaucoup de travail sur soi.
Karine et Steve, est-ce que vous considérez que vous réussissez bien, vous vous adaptez au changement dans le milieu professionnel? Peut-être que vous avez même piloté un changement organisationnel que vous avez le goût de nous partager?
Bien, je pense que oui. Je pense que je suis à même de dire là, que je suis une agente de changement. Autant dans une ancienne vie où je n'étais pas cadre, j'étais probablement l'agente de changement là, qui embarquait avec les gestionnaires. Maintenant que je le suis, je le disais tout à l'heure, là, donc d'aller chercher les troupes, d'amener, on parlait aussi là, de co-responsabilité, d'inter-service, d'aller chercher les gens. On a plusieurs services là, ici dans les centres de services scolaires, donc si on veut amener un changement, d'aller chercher des alliés un peu partout qui sont à même de pouvoir nous aider dans cette démarche-là. Donc, oui, prévoir des formations aussi parce que, c'est pas tout le monde qui est prêt peut-être à l'étape suivante où on veut aller. Donc, c'est de s'assurer avec l'équipe, là. Donc, est-ce que tu as besoin d'une formation? Avez-vous des questions? Je pense que ça, c'est la base aussi, tu sais, de vraiment, je suis vraiment, tantôt on parlait de d'être près des gens, de prendre soin de l'humain, hein. Catherine Julie disait ça en début, je l'ai noté parce que c'est quelque chose qui me reste le mois. Donc, vraiment, l'humain, les employés, c'est important de les écouter. Alors, de prévoir ces changements-là en rencontre, d'y aller par étapes aussi. Donc, puis de laisser place au questionnement, de laisser place aux émotions, j'ai envie de dire, dans le sens où s'ils sont réfractaires ou s'ils ont des réticences, de laisser la place pour qu'ils puissent les nommer sans jugement, qu'il soit à même de le dire, moi, je suis pas certain de ça, puis pas de se dire, j'en parlerai pas parce que Karine, elle va dire que tu sais, je fais pas ma job comme du monde. Non, pas du tout, au contraire. Tu sais, s'ils ont des craintes, on veut le savoir pour justement travailler à les enlever, ces craintes-là, parce que ce qu'on veut, c'est de travailler là, dans la bonne humeur et que personne rentre le lundi matin en ayant crainte, là. Donc, je pense que c'est ça. Puis des rétroactions aussi, donc, de donner du feedback. Dans les changements, de faire tout dépendant de la grosseur du changement, de dire est-ce qu'on se donne des rencontres hebdomadaires, est-ce qu'on se donne des rencontres deux fois par mois, pour faire le suivi de ces changements-là? Comment ça va? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on se dit, ah, finalement, on va revenir en arrière? Faisons un pas de recul, repensons, puis on recommence. Donc, je pense que c'est important de le nommer puis de montrer aux équipes qu'on est à même de pouvoir recommencer puis se tromper, nous.
Je prends des notes de ma collègue Karine parce qu'effectivement, je pense que c'est des choses des fois qu'on ne pense pas tout le temps. C'est pas naturel de penser à toutes ces actions. De mon côté, je pense qu'avec mon équipe, je pense que c'est bien réussi. Je pense que le climat est bon, la confiance est là. C'est plus au niveau où je dois, moi, personnellement, faire du travail. C'est au niveau de l'influence avec mes collègues des autres services. Donc, c'est là que j'ai un petit peu plus de difficultés, donc, de travailler avec l'humain, de travailler avec les personnes, puis de m'approcher, mais de mes collègues direction de service. Donc, c'est un peu là que je cherche à travailler, parce que moi, quand j'entends Catherine Julie parler de valeur ajoutée, de laisser tomber, tout ça, pour moi, c'est hyper évident. Et j'ai l'impression des fois que c'est évident, ça devrait être évident pour mes collègues aussi. Puis on dirait des fois que je saute des étapes naturellement en me disant, bien, c'est assez évident que tel projet ou processus n'ajoute pas de valeur, alors éliminons-le. Mais des fois, c'est beaucoup dans ma tête. Alors, c'est ce que moi, j'aimerais travailler. Puis honnêtement, j'ai des petits succès à droite et à gauche et je travaille fort là-dessus.
Je vais nommer l'éléphant dans la pièce parce que peut-être que vous n'allez pas vous le permettre. Mais moi, je peux, en tant qu'animatrice, et j'ai le goût de vous entendre là-dessus. Peut-être commencer avec vous, Steve. Le gouvernement, le système, les changements qui sont imposés, la lourdeur de la chose, ce que je nommais au départ de ce balado, comment c'est perçu chez vous? Avez-vous l'impression d'avancer, de reculer, de stagner?
Écoute, c'est une excellente question. J'aime pas te dire que ça s'améliore avec le temps. Mais malheureusement, non. Puis je pense qu'il n'y a personne qui est mal intentionné dans tout ça parce que c'est des processus qui sont extrêmement lourds, qui arrivent de très haut. Parfois, les motifs sont politiques et ça descend très rapidement dans les organisations. On sent qu'il y a des étapes qui sont sautées parfois. Et je vous donne un exemple très, très bête. Le gouvernement donne une directive aux directeurs généraux. Cette directive-là descend très rapidement. On est tous mobilisés presque en urgence. Et pour accomplir notre mandat, on doit travailler avec la GRIX, qui est tous ceux qui s'occupent, c'est le groupe qui s'occupe de l'informatique. Et quand on vient pour leur poser des questions, ils nous disent, bien, on ne savait même pas que le gouvernement vous a demandé ça, donc on ne peut pas vous aider. Et nous, on est dépendants de ce qu'ils vont nous donner pour pouvoir répondre au gouvernement. Alors là, vous voyez qu'à l'interne, là, ça vient causer énormément de stress, des irritants. Là, on mobilise des équipes. Puis là, ce que je vous raconte, c'est dans 72 centres de services scolaires. Donc, il y a des dizaines de personnes qui sont mobilisées dans des dizaines d'organisations. Puis on parlait de valeur ajoutée. Mais là, ce que je vous raconte, c'est de la non-valeur ajoutée. Tout le monde s'agite à essayer de répondre, alors que là, on essaye de comprendre, mais pourquoi que la GRIX n'est pas au courant et comment on va faire pour répondre, etc., etc. Donc, effectivement, tu l'as très bien nommé, il y a plusieurs situations comme ça où est-ce qu'on sent que ben, ce n'est pas pour aider les élèves, là, c'est pour une cause politique, mais on comprend que la politique est importante, mais en même temps, ça vient démobiliser, puis là, la capacité d'adaptation est mise à rude épreuve, je vous l'avoue.
Karine, un outil qui est peut-être favorable pour vous, c'est la transparence, la compréhension d'autrui dans ce style de situation?
Je pense que oui, je pense que c'est important, surtout quand les changements proviennent justement là, du gouvernement ou bien que ça se passe beaucoup plus haut au-dessus de nous. On peut parfois être d'accord avec la réticence des employés ou on comprend que ça fonctionne pas comme on veut. Donc, tu sais, de le nommer aux employés, c'est sûr qu'on a toujours une posture de leader et tout ça, mais de dire aux employés qu'on les comprend dans ce changement-là, je pense que c'est qu'on partage ce sentiment-là. Je pense que ça crée un lien de confiance aussi, puis ils se rendent compte qu'ils sont pas toutes seules là-dedans. Ils sont pas toutes seules à vivre la frustration aussi. On peut en vivre nous aussi, même si on est gestionnaire, donc de le nommer tout en restant bon loyal et tout ça. Là, donc, mais de le nommer, là, qu'on est avec eux là-dedans, puis qu'on comprend, puis que ça fait peut-être pas notre affaire à nous non plus, mais bon, une fois que c'est dit, là, on se retrousse les manches, puis qu'est-ce qu'on a comme solution devant nous? Qu'est-ce qu'on peut trouver ensemble en équipe comme solution pour aller de l'avant, même si on n'aurait pas fait ça de même, mais bon, on n'a pas le choix, il faut avancer.
Comment on encourage la relève? Comment on envoie un vent de positivisme? On leur dit que c'est la façon de faire, de bien accompagner les équipes.
Une bonne question, mais je pense, encore là, je me répète beaucoup, je pense, mais ça vient ça revient à la transparence, ça revient à la, on répète, la co-responsabilité, ça revient, c'est, faut qu'ils se fassent partie prenante d'une équipe. Autant que nous, on aime être partie prenante d'une équipe pour apporter nos idées, pour faire partie du changement, puis de, mais je pense que c'est important aussi au niveau des employés, donc, je le vois comme ça.
Alors, de mon côté, pour aider à la relève et la mobilisation de l'équipe, j'essaie de célébrer tous les petits gains, les petites victoires et de souligner ce qu'on a réussi à faire, même si c'est des petits pas, donc depuis les dernières années. Alors, c'est un peu ce que j'essaie de faire.
Catherine Julie, je pense que le mot « célébrer », c'est quelque chose que vous appréciez.
Et absolument. En fait, je crois que c'est très important de célébrer ce qu'on fait. Puis quand j'écoutais Steve, justement, ce sont des pratiques des organisations apprenantes que donc de célébrer parce qu'on apprend par rapport à ce qu'on fait de bien. C'est une façon d'apprendre, pas juste par rapport à ce qu'on a raté. Donc, souligner ce qu'on fait de bien, puis se questionner sur comment on a envie de faire autrement. Puis vraiment, d'élargir nos perspectives, tu sais, à la fin d'une crise ou d'un changement qui a mal tourné, de se demander ben qu'est-ce qu'on ferait autrement dans la même situation. Ben c'est une façon aussi de penser certaines pensées PANSER, certains mots, hein, certaines difficultés, mais de grandir aussi grâce à l'adversité. Hein, parce que ça, c'est aussi des opportunités. Hein. L'adversité peut être source de nombreux apprentissages, de résilience, alors de souligner ça. Puis ça m'amène à peut-être ajouter un dernier point, c'est que même quand ça n'a pas bien été, il y a des gens qui ont continué à être orientés solutions, à l'écoute. Donc, il n'y a peut-être pas de feu d'artifice, mais il y a des étincelles. Puis ça, ben, c'est le rôle des cadres aussi de les chercher. Quand ça va pas bien, puis de les souligner. Puis c'est une façon aussi de rester dans cet état d'esprit d'ouverture qui est beaucoup plus confortable par ailleurs que de chercher donc qu'est-ce qui va bien, même quand c'est le chaos. Parce que quand on fait des changements, on peut traverser des périodes chaotiques aussi, hein, puis que l'autre chose, peut-être un autre dernier point, c'est que, dans le fond, d'être capable de nommer aussi que c'est le chaos en ce moment ou d'être capable de nommer comme cadre que je n'ai pas la solution, mais j'ai confiance qu'ensemble, ça c'est mobilisant aussi pour les gens dans l'équipe d'avoir son gestionnaire, son cadre qui reconnaît que il n'y a pas la solution, mais qu'ensemble, on va la trouver. Ça crée des liens dans les équipes. Ça contribue à cette confiance qui est essentielle aussi.
Revenons au titre de ce balado. Accompagner l'équipe dans le changement. Accompagner, c'est tellement humain. Humanisons le changement. Permettons-nous de rêver, comme disait Martin Luther King. Et je vais reprendre les mots de notre invitée experte aujourd'hui, Catherine Julie Charrette. On prend le temps de célébrer le changement. On n'a pas de feu d'artifice. Créons l'étincelle ensemble. Alors, je pense que ça fait bien le résumé de ce balado. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des thèmes, des sujets, des idées d'invités à nous proposer, vous ne nous gênez pas pour nous écrire au www.aqcs.ca. Et on est toujours vraiment ouvert à l'idée de vous lire, de vous entendre. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. L'AQCS remercie le comité de perfectionnement des cadres et des gérants, ainsi que la personnelle, assureur de groupe auto, habitation et entreprise, pour leur soutien dans la production de la série Balada QCS.